plus de deux mois de guerre en Ukraine, le secrétaire général de l'ONU en tournée, la Turquie, la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Il est à Kiev cet après-midi. Nous faisons le point jusqu'à 13h45 sur ce conflit qui dure donc depuis plus de deux mois avec Armel Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24. Bonjour Armel Charrier.
Bonjour Bruno.
Et merci d'être venu dans les studios de France Inter. 01 45 24 7000 pour les questions des auditeurs ou l'appli France Inter. Rubrique réagir. Antonio Gutiérrez donc à Borodianka, à Boutcha, avant Kiev cet après-midi. Est-ce que l'ONU a quelque rôle que ce soit dans ce conflit et peut jouer au moins un rôle de médiateur ou apaiser le conflit ?
On est content de voir que l'ONU arrive enfin, parce que ça veut dire d'un seul coup on arrive sur du multilatéralisme. Voilà. On n'est plus dans le face-à-face entre les Ukrainiens et les Russes qui avaient débordé avec les Ukrainiens, les Américains, les Européens et les Russes. Et finalement, effectivement, ce conflit, il est regardé par tout le monde. La Russie, elle est aussi regardée par la Chine et par l'Inde, puisque quelque part, ils ont aussi envie de tendre la main vers ces pays-là. Et puis, il y a aussi une politique de la Russie qui est quand même très marquée en Afrique. Donc, vous avez plein de pays qui, aujourd'hui, regardent tout ça. Donc, quand Antonio Guterres se déplace à Kiev et se déplace à Moscou, il représente tout ce monde-là. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que d'un seul coup, il a pris le soin d'aller voir d'abord Vladimir Poutine à Moscou et ensuite d'aller voir le président Zelensky à Kiev.
Ce que lui a reproché Zelensky d'ailleurs.
En lui disant vous n'ayez pas commencé. Mais ce qui est important, c'est qu'ils se parlent. C'est qu'il y ait des choses qui soient dites. Peut-être qu'il y a des choses qui se disent discrètement quand on est dans des tête-à-tête, quand on a franchi comme ça des frontières et qu'on n'est pas au téléphone ou qu'on n'est pas en vision. On ne sait pas ce qui se raconte. Donc au moins, ça lui fait prendre conscience de certaines choses et ensuite de savoir comment est-ce qu'il peut négocier. Alors, il peut négocier effectivement en disant, par exemple, pour tout ce qui est les massacres, il faut qu'il y ait maintenant une enquête qui soit mise en place. On avait déjà la CPI, c'était déjà le rôle de la Cour pénale internationale. Elle avait déjà répondu présent, mais au moins, il demande aux Russes d'être plus opérants et de s'y affilier. Et puis, l'autre chose auquel il doit évidemment répondre, peut-être qu'on y reviendra, c'est la question que lui pose le président Zelensky, c'est regardez les crimes de guerre, je voudrais que vous puissiez qualifier ça de génocide. Mais la troisième chose qu'il peut arriver, parce que c'est le secrétaire général de l'ONU quand même, il doit parler des civils. Il doit parler des réfugiés, il doit parler des corridors humanitaires, parce que ça c'est son rôle, et c'est le rôle du multilatéral. Dès que les gens ne veulent plus parler, le multilatéral peut dire « on peut vous assurer un corridor quelque part, on peut vous assurer une zone ». Si on ne peut pas le faire, alors on n'a plus de diplomatie, on est vraiment en guerre.
Et les corridors de Mariupol, ce qui laisse penser tout de même que le rôle de l'ONU se cantonne, mais alors j'entends ce que vous me dites sur, il y a aussi ce qu'on ne voit pas, les discussions qui se tiennent dans les tête-à-tête, que l'ONU se cantonne finalement à de l'humanitaire et que le multilatéral se limite à ça.
Ah, c'est dommage, oui. Ouais. Forcément, mais c'est un peu ce qui est le cas en ce moment dans cette guerre-là. On se rend compte finalement que le rôle de l'ONU, c'est pour l'instant d'intervenir dans le cadre du HCR avec les réfugiés et d'intervenir sur les corridors humanitaires. On se rend compte que le multilatéralisme est un peu en train d'éclater et que c'est vrai que l'ONU, telle qu'elle est perçue aujourd'hui, on pensait toujours au Conseil de sécurité, sauf que le Conseil de sécurité est bloqué par les Russes qui mettent leur veto. Et donc maintenant, on l'ouvre avec l'Assemblée générale et l'Assemblée générale, du coup, il y a la représentation de tous les États. Alors peut-être que demain, il y aura une autre vision de la politique qui sera du coup davantage partagée, davantage étayée. Dans ce conflit, on a vu effectivement que les choses avaient dérapé très vite et que, en fait, les angoisses avaient été portées beaucoup par les Américains et que donc, du coup, aujourd'hui, on est sur une position qui est une position de réarmement. On n'est que là-dedans, avec les Américains, aujourd'hui, avec Vladimir Poutine, qui monte en gamme aussi à chaque fois en disant « je peux faire appel à un armement ». Alors, on ne sait pas si c'est l'armement nucléaire, on ne sait pas si c'est les missiles hyper-vélos maintenant qu'il dit avoir à disposition, mais qu'on n'a pas encore vu en usage. Et donc, vous avez raison, à partir du moment donné où on est avec cette guerre-là, on est peu dans les négociations et on est peu dans la diplomatie, donc il y a peu de place pour l'instant pour l'ONU.
Allons-y sur le réarmement et cette déclaration venue du Kremlin ce matin, envoyer des armes aux Ukrainiens menace la sécurité internationale. Ce sont clairement, je me souviens qu'au début de la guerre, on a salué les efforts de l'Europe qui débloquaient des crédits, ce qui était un tournant dans l'histoire de l'Europe, c'était nouveau. Au fil des semaines, tout de même, c'est les États-Unis qui ont le leadership.
Oui, c'est les États-Unis qui ont le leadership parce que, d'abord, en termes d'armement pur, c'est eux qui ont les stocks, même si on voit maintenant que leurs stocks eux-mêmes, ils ont du mal, en fait, à pouvoir répondre à toute la demande. Ce qu'on ne réalise peut-être pas, c'est que compte tenu du conflit qui commence vraiment à nous inquiéter parce qu'il dure et que donc, du coup, on voit que ça prend des ramifications de plus en plus importantes, on a un armement considérable qui est envoyé en Europe. Et que cet armement-là, il va chez les Ukrainiens. Après, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Pour l'instant, il sert dans cette guerre en Europe. Oui. Et alors, les Américains ont été tout de suite très offensifs en donnant des missiles, on en a beaucoup parlé, des missiles qui ont vraiment permis de toucher la défense aérienne russe et donc de pouvoir arriver à ce que, justement, il n'y ait pas beaucoup d'avions qui survolent le territoire, etc. On les a vus monter en puissance maintenant sur des choses qui sont plus opératives en disant on veut mettre des obus et des obusiers. Donc du coup, ça permet de faire du tir. Maintenant qu'on est dans les grandes plaines du Donbass, on n'a plus besoin d'aller taper les avions, il faut vraiment qu'on tape sur la longueur, etc.
Ouais, la configuration de la guerre a changé. On n'est plus dans des combats de rue ou en tout cas dans des zones civiles. On est dans des zones de campagne, si j'ose dire.
En ayant un peu les deux, parce que après, une fois qu'on arrive sur les villages ou une fois qu'on arrive sur les villes, là, on redevient dans du combat urbain et donc du combat lent. Et c'est pour ça qu'on voit que ça n'avance pas si vite que ça, mais ça avance quand même du côté russe. Alors pour finir sur votre question, c'est vrai que ce sont les Américains aujourd'hui qui ont l'argent. Ils ont mis un peu moins de 4 milliards maintenant d'aide pour l'armement ukrainien, en commençant déjà un peu avant la guerre. Donc effectivement, ils relancent une industrie de défense, ils relancent une industrie d'armement. Alors on les regarde effectivement avec ce regard qui est que, bah oui, eux, ils ont pas de risque parce que c'est pas sur leur continent cette guerre, que du coup, quand on parle de sanctions sur le gaz ou sur le pétrole, ils ne sont pas concernés parce qu'ils ont le gaz de schiste et que donc du coup, ils sont libres derrière. Mais c'est vrai que ce sont eux qui sont à la manette aujourd'hui. Et on voit que les Européens suivent, mais avec toujours ces déclaratifs américains, et que ces déclaratifs américains, ils entraînent des déclaratifs russes. Et c'est là que c'est inquiétant.
Je rebondis, petite parenthèse, sur une de vos phrases. Ils relancent une industrie de l'armement. Ça veut dire qu'ils se disent que ça peut servir pour d'autres occasions. Je pense aux tensions qui montent du côté de la Chine par ailleurs.
Sûrement, parce qu'il y a d'une part, à partir du moment donné où il y a une guerre, vous avez tout un programme qui se met en place. Là, on voyait dernièrement que tous ceux qui doivent fournir, par exemple, les missiles Stinger, etc., ils disaient, ben ça, c'était des choses que normalement on devait arrêter. Donc, on devait les arrêter en 2023. Et puis là, maintenant, on demande d'être réapprovisionné là-dessus. Parce que l'armée américaine ne fournit pas ce qu'elle a de tout neuf. Elle le garde pour elle. Elle fournit la génération en dessous, en fait. Donc, du coup, ça ravive ça. Ensuite, toute guerre génère ça, c'est-à-dire que chez nous aussi, enfin partout, du coup on va se reposer la question de l'armement. Et puis c'est vrai que si on se projette dans la compétition qui est en train de se mener avec les Russes, qui sont effectivement en train de dire nous avons des nouvelles capacités, etc., etc., les Américains vont certainement aussi se projeter sur un plus long terme, et peut-être sur un plus long terme avec les Chinois, oui.
Elisa au standard, bonjour Elisa.
Bonjour à tous. Rapidement, merci. Aurait-il été possible d'armer massivement, mais tout de suite, l'Ukraine, dès l'annonce de son envahissement par Poutine, le 25 février? C'est de l'Uchronie, c'est irréaliste.
Mais Armel Charrier, néanmoins, la question est intéressante parce qu'il y avait au début de la guerre cette peur d'être considéré comme co-belligérant et donc d'être embarqué dans une troisième guerre mondiale, en une formule. Est-ce que cette crainte demeure ou est-ce que, au fond, Américains comme Européens montent en régime?
Alors, la crainte de la co-belligérance, elle demeure parce qu'il y a à tout moment, ça peut générer un dérapage. Oui. Et ça relève effectivement ensuite, c'était presque, j'allais dire, de la psychologie. Donc, on ne sait pas, à un moment donné, ce qu'un chef d'État, surtout un chef d'État tel Vladimir Poutine, qui est donc en position de toute puissance, peut prendre comme étant quelque chose qui a un peu dérapé. Donc, forcément, la co-belligérance, elle existe. Aujourd'hui, on n'a pas fait de co-belligérance au premier sens du terme. Mais en soi, quand les Américains mettent 4 milliards, on est quand même sur une aide massive. Oui. Alors, madame a raison sur le fait de se poser la question, de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça tout de suite? D'abord, je crois qu'on ne l'avait pas imaginé, qu'on ne l'avait pas pensé, qu'ensuite, on a pris en compte le fait qu'on voulait savoir si les Ukrainiens étaient capables ou non de résister, parce que envoyer des armes massives, envoyer par exemple des hélicoptères, des chars, des obus, si vous avez une armée qui du jour au lendemain abandonne les armes sur le terrain parce que d'un seul coup elle est faible, et que donc ça veut dire que les Russes les récupèrent. Donc on a aussi en partie testé l'armée ukrainienne pour savoir si elle était capable effectivement d'avoir ces armes, si elle était capable de résister, et donc on a vu la gradation qui se mettait en place. Les Européens ne sont pas prêts du tout à aller vers ça. Est-ce qu'ils auraient pu être prêts au départ ? Non, parce que finalement, les Allemands sont sur un tel changement de paradigme qu'il a certainement fallu cette guerre en Ukraine pour les amener à avoir un changement sur le paradigme. Alors la question est véritable sur la question de la... Si on avait fait ça dès le départ, est-ce qu'on aurait eu un résultat meilleur ? Sûrement. Pour l'armée ukrainienne, mais dans la construction intellectuelle, c'était plus compliqué.
Quand les Américains, le ministre de la Défense Lloyd Austin dit l'Ukraine peut gagner la guerre, on sait la part de communication dans tout conflit, est-ce qu'il y a des choses tangibles derrière cette phrase ?
L'Ukraine peut gagner la guerre, c'est d'abord une phrase de communication, vous l'avez dit, et donc, et les Ukrainiens, eux, ont même changé leur communication, c'est qu'ils ne parlent pas de guerre, maintenant ils disent qu'ils se battront jusqu'à la victoire, ils utilisent le terme de victoire, donc là on est sur la notion de morale. Ensuite, la Ukraine peut gagner la guerre, dans la mesure où les Américains ont choisi d'aider les Ukrainiens, ça veut dire que forcément ils vont les aider, et que c'est là où est la question, c'est-à-dire les aider jusqu'où ? Et au départ, on avait un conflit régional. Donc on s'était dit qu'on trouverait une solution avec les Russes, peut-être sur la question du Donbass. Petit à petit, on voit une gradation qui est en train de se mettre en place, et c'est ça ce qui est le plus dangereux, c'est qu'en fait, on ne sait pas quels sont les buts des guerres, ni des Russes, dont on a parlé. Est-ce qu'ils ne veulent que le Donbass et la mer d'Azov, et est-ce qu'ils s'arrêteront ? En même temps, quand on est dans une guerre et qu'on a réussi une partie, bah peut-être qu'on se dit « Oh, j'ai envie d'un petit morceau de la mer Noire » et qu'on continue. Donc on ne sait pas les buts de guerre russes. On ne sait pas les buts de guerre ukrainiens. Est-ce que finalement, ils avaient envie, en cas de victoire, de récupérer tout leur territoire ou leur territoire amputé du Donbass, mais faisant partie de l'Union européenne ? Et on ne sait pas quels sont les buts de guerre américains. Aujourd'hui, le but de guerre américain était de dire... On vient aider les Ukrainiens, on vient faire en sorte qu'ils puissent épouser la démocratie. Mais maintenant, est-ce que c'est ça réellement ou est-ce que c'est à un moment donné aller jusqu'à se battre avec les Russes ? Et les dernières déclarations qui sont de dire, bien non, il faut s'en prendre maintenant à la force militaire russe et on ne peut pas laisser cette force militaire russe mettre en place. Ça veut dire que le but de guerre américain, c'est plus une question ukrainienne. C'est une question de faire mordre dans la poussière à Vladimir Poutine. C'est pour ça que dans ces conditions, vous comprenez que nous, les Européens, nous sommes à la fois embarqués dans cette guerre-là, qui se justifie parce qu'il faut effectivement aider les Ukrainiens et que l'opération initiale de Vladimir Poutine était compliquée. Mais si on se retrouve dans un conflit entre Russes et entre Américains, c'est nous qui en payons le prix fort.
Au chapitre crise régionale, est-ce qu'on est en train d'assister à une extension du conflit à la Moldavie et cette région séparatiste pro-russe de Transnistrie ?
On peut. On doit le faire pour l'instant avec délicatesse parce qu'on n'a pas tous les éléments. Vous avez vu que les Russes tout de suite ont dit non, ça c'est de la manipulation, on veut nous amener au-delà de ce qu'il en est. Alors il peut y avoir à la fois des pro-russes qui ont pu profiter de cette occasion pour se dire on a aussi envie de récupérer cette partie-là et donc d'appeler les Russes vers nous. Mais c'est vrai que la Transnistrie, c'est une bande de terre qui est indépendante depuis 1990. Donc c'est un peu différent du Donbass. Quand on parle de la crise, on parle de 2014. Donc c'est pour vous dire, quasiment tout de suite à la création de la Moldavie, elle était là, à la fin de l'Empire soviétique, elle s'est créée. Et cette bande-là, sur laquelle tout le monde ferme les yeux, elle existe finalement parce qu'elle permet de faire beaucoup de commerce mafieux. On est dans des zones où la mafia est importante, et donc tout le commerce d'armes, tout le commerce de la drogue, tout le commerce humain se fait beaucoup dans ces zones de non-droit, parce qu'elles sont reconnues absolument pas par la communauté internationale. Donc forcément, vous défendez beaucoup moins les droits humains des gens quand vous êtes dans une zone grise, oui. quand vous êtes dans un vrai pays. Donc pour l'instant, les Russes étaient restés un peu délicats par rapport à ça. Aujourd'hui, s'ils viennent à prendre la Moldavie, ça veut dire qu'ils incorporent aussi cette partie-là. Ça veut dire que dans ces
cas-là... Parce que c'est dans la continuité territoriale.
C'est dans la continuité, voilà. Ça veut dire que du coup, ils récupèrent cette partie qui leur sert quand même depuis longtemps, sur laquelle ils n'ont jamais voulu reconnaître, mais qui leur sert comme ça. Mais simplement, s'ils récupèrent la Moldavie, ça veut dire que derrière, ce qui les intéresse, c'est de déboucher vers la mer Noire. Et si vous débouchez vers la mer Noire, ça fait craindre évidemment pour Odessa en Ukraine, ça fait craindre pour un continuum vers la mer Noire. Et il y en a un autre acteur régional qui va être très inquiet, qui est de l'autre côté des rives de la mer Noire, il s'appelle la Turquie.
Et voilà pourquoi, entre autres, il joue les médiateurs. Merci beaucoup Armelle Charrier, éditorialiste politique internationale à France 24, d'être venue dans les studios de France Inter répondre à nos questions.